Merci Anne Fauquemberg, on vous retrouve à 9h pour le journal. Bonjour à toutes et à tous, un numéro hors série du Secret des Sources ce matin, à l'occasion de la 9e édition des Assises du journalisme qui s'est tenue à Tours.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Ce matin, à l'occasion de la 9e édition des Assises du journalisme, nous allons parler du prix de l'information de qualité. Selon un sondage Harris Interactive pour les Assises du journalisme, 8 Français sur 10 se déclarent intéressés par l'information et 55% des personnes interrogées expliquent consacrer plus d'une heure par jour à consulter l'actualité et à s'informer. Les Français consulte massivement l'information gratuite, nous dit l'enquête, mais également l'information payante à un moment où l'actualité riche est accessible à flux continu. Certains parlent même d'infobésité. Le prix d'une information de qualité, on en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. Julia Tissier, bonjour.
Bonjour.
Co-fondatrice de Chic Magazine, journal en ligne, et vous êtes également l'auteur avec Myriam Levin de La génération Y par elle-même, qui vient de sortir en poche, et également de Y comme remis aux éditions Robert Laffont. Raphaël Garrigos, bonjour.
Bonjour.
Le terme infobésité est de vous, même si vous ne l'aimez pas, et vous êtes co-fondateur du site d'Info Les Jours que vous venez de lancer il y a tout juste un mois. Christophe Deloire est également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire général de Reporters sans frontières, et en cours d'émission, nous serons en ligne avec Walter Bouvet, co-fondateur de la revue Terra Echo qui a cessé de paraître. Et en seconde partie d'émission, nous recevrons Florence de Changy. Bonjour Florence.
Bonjour Frédéric.
Correspondante en Asie-Pacifique pour Radio France, Le Monde et RFI. Et vous publiez aux éditions Les Arènes, le vol MH370 n'a pas disparu. Notre regard extérieur aujourd'hui, Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste des médias, l'un des piliers également des Assises du journalisme. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Le clin d'œil de la semaine de Yacine Bouzard. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard avec Omanet. Aujourd'hui, Clément Daté. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
En France, nous avons un écosystème général de production du journalisme qui est à des années-lumière des canons démocratiques que l'on doit attendre en la matière. En termes de concentration des médias, 7 milliardaires qui contrôlent 95% de la production journalistique dans ce pays.
Aujourd'hui, le sujet, c'est aussi que beaucoup de médias cherchent leur modèle économique et que les temps sont durs.
Aujourd'hui, on n'est plus seulement journaliste télé, radio, écrit ou web. On est un journaliste global et il faut en permanence penser numérique et multi-support.
Ce qu'il faut vraiment, c'est garantir l'indépendance des journalistes. Je pense qu'il faut un mouvement citoyen, un mouvement de protestation pour redonner en France l'indépendance aux journalistes parce qu'on ne peut pas faire de censure au 21e siècle dans une démocratie.
Le secret des sources.
Voilà des questions essentielles pour la presse, les journalistes et tous ceux qui nous lisent, nous regardent et nous écoutent. Jean-Marie Charon, chroniqueur spécialiste des médias de l'émission Les Assises du journalisme, qui vous ont tous réunis à peu près cette semaine à Tours. Quels sont les grands thèmes ou préoccupations qui se sont dégagés lors de ces 3 jours de débat?
Oui, alors il faut peut-être déjà rappeler que les Assises, c'est une structure qui a été créée il y a une dizaine d'années maintenant, qu'elle est, associée ou appuyée sur une association qui s'appelle Journalisme et Citoyenneté, qu'elle réunit à la fois des associations, des institutions, des organisations professionnelles et une ville, toujours, donc là en l'occurrence Tours. Et c'est en fait collectivement, nous sommes amenés à définir chaque année un thème, donc le prix de l'info. Et donc l'idée, c'était d'essayer de prendre plusieurs angles, d'où le fait qu'on a un premier angle qui a été évoqué en lancement, qui était celui le prix de l'information, mais est-ce que le public est prêt à payer cette information, effectivement, dans un contexte de gratuité? Et c'est vrai que là, on a eu l'heureuse surprise de voir qu'il y avait une légitimité de l'information payante, que le public, donc 7 personnes sur 10, disent qu'ils sont prêts à payer, combien, là, ça se gâte un peu, 54%, moins de 10 euros. Ça fait quand même pas beaucoup pour faire vivre les médias. Et seulement une minorité, en fait, qui était prêt à donner 30 euros. Puis surtout, il y a cette indication, 88% des moins de 25 ans, moins de 10 euros. Et puis, il y avait cette idée, est-ce que le public est prêt à accompagner la création de médias? Ici, on a plusieurs personnes qui créent des médias. Est-ce que le public est prêt à les aider dès le départ ou même avant de démarrer? Donc, c'est le fameux crowdfunding. Et là, le sondage nous dit 4% seulement, hein, ont l'expérience du crowdfunding, mais un espoir, 34% disent qu'ils sont prêts à accompagner des créations de médias. Alors aussi, je pense que la question du prix pour le public, c'est aussi, est-ce qu'il n'y a pas un prix pour bien s'informer? Et là, c'est tout l'enjeu, je dirais, peut-être autour de l'éducation aux médias, qui est une grande transversale des assises depuis plusieurs années. C'est-à-dire comment on peut penser cette éducation aux médias, à la fois avec le rôle des écoles, mais aussi avec le rôle, je dirais, des associations d'éducation populaire. Le deuxième angle, c'est celui qu'on a entendu évoquer plusieurs fois dans les sons en début d'émission, c'est celui du modèle économique. Et là, c'est vrai qu'effectivement, on a des diffusions qui sont en recul dans la presse. Hein, pour rappel, 4% de recul de toute la presse écrite l'année dernière. On a de la publicité qui se porte pas très bien non plus pour la presse écrite. Pratiquement 8% de recul l'année dernière pour ce média. Et donc, on a une concentration, des énergies plutôt sur la diminution des coûts, plutôt parfois que pour le développement. C'est cette thématique aussi des économies de coûts, ça passe aussi par souvent, de l'investissement technologique. On a parlé par exemple des robots, robots journalistes. Alors je ne sais pas si c'est une solution pour les diminutions de coûts ou pour faire autre chose, comme certains le suggéraient. Et puis c'est les questions d'organisation. C'est aussi des questions de nouveaux intervenants. Par exemple, sur le numérique, là on a des éditeurs autour de la table, mais on aurait pu avoir Google, Facebook ou Orange, qui ces fameux intermédiaires qui, en matière de chiffre d'affaires, sont souvent ceux qui aujourd'hui tirent une partie très substantielle des revenus.
Et dont on dit qu'ils influencent les conférences de rédaction.
Manière dont les algorithmes sont structurés, notamment l'algorithme Google, c'est vrai que ça conduit à penser souvent les titres d'une certaine manière, à penser à l'utilisation d'un certain nombre de termes, à avoir plutôt certains types d'entrées. Alors, faut peut-être pas exagérer non plus. Tout le monde n'a pas une stratégie qui est basée sur Google ou sur Facebook, parce qu'il y a aussi toute une série, on le verra tout à l'heure pour ceux qui sont autour de la table, toute une série d'intervenants dans les nouveaux médias numériques qui parient plutôt sur l'abonnement. Hein. Et ça a été déjà le cas pour Mediapart, et avec un certain succès. D'autres ont eu plus de difficultés avec l'accession de l'abonnement, mais je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt sur ce type de stratégie. D'où, je dirais, un enjeu autour de ce qu'on appelle la monétisation, c'est-à-dire à quelles conditions on peut donner envie au public de s'informer. Puis je crois que le dernier élément, c'est effectivement la question de la qualité, c'est évidemment de l'investissement éditorial. Et puis, il y a eu aussi la question de la législation. Cette année, on est à un moment un peu clé. Il y a à la fois la question de l'indépendance et la question du secret des sources, dont on a parlé hier. Et là, les députés qui avaient porté les projets étaient là. On ne peut pas dire qu'ils ont toujours eu un fort assentiment de la salle, mais disons que ça a permis une discussion au moment où ces textes sont en débat. Et puis, le prix de la bonne information, c'est le prix que les journalistes payent en allant sur certaines zones de conflit, dans certains pays où il n'est pas facile d'informer. Et là, c'est évidemment la parole qu'on a entendue, qu'on entend régulièrement de la part de Reporters sans frontières, notamment.
Merci Jean-Marie Charron. On retient dans le sondage Harris Interactive que 7 Français sur 10 estiment justifié de payer pour accéder à une information de qualité. Alors, je vous propose d'écouter un extrait de l'émission du Grain à Moudre du 1er décembre dernier avec Florent Latrive, délégué aux nouveaux médias de France Culture, et Pascal Richer, directeur adjoint de la rédaction de l'Obs.
Aujourd'hui, effectivement, on est plutôt dans la recherche de solutions hybrides, en fait, même si, effectivement, il y en a qui sont plutôt gratuits ou plutôt payants, et qui diffèrent en fonction du positionnement de chaque média. Il n'y a pas la presse à trouver son modèle. Chacun doit trouver son propre modèle.
Quand on regarde sur des grands médias généralistes comme Le Monde aujourd'hui, aux États-Unis comme le New York Times par exemple, qui sont deux modèles mixtes, le New York Times, qui est pour le coup un journal global, aujourd'hui a 1 million d'abonnés payants. Quand on prend aujourd'hui Le Monde en France, alors je n'ai pas leurs chiffres précis, mais les abonnés commencent à prendre une ampleur importante, et surtout ils ont les moyens, parce qu'ils financent, d'expérimenter des nouveaux modèles d'accès payants. On pense à leur application La Matinale par exemple, qui est une sélection bien pensée de leur contenu d'information qui est distribué le matin, pensée pour les téléphones mobiles, cette application, elle est payante. Donc c'est aussi un moyen à chaque fois pour des médias comme ça de diversifier leur menu, mais aussi de faire du généraliste. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité à faire du généraliste payant aujourd'hui. Comme ça a été dit, il y a aussi une question de dosage.
Raphaël Garrigos, alors vous venez de lancer un journal en ligne, Les Jours, il y a tout juste un mois. C'est un site d'information généraliste, sans pub, sur abonnement, pour produire une information haut de gamme en traitant les sujets en longueur. C'est à peu près le rêve de tout journaliste.
En tout cas, c'était le nôtre, oui, quand on a commencé à réfléchir avec cette dizaine de personnes avec qui on a quitté Libération et on a décidé de lancer Les Jours, on est parti de ce constat-là que vient de dresser d'ailleurs Jean-Marie Charron. Et on s'est décidé sur deux choses d'emblée, on a été d'accord tout de suite là-dessus, c'est que ce serait sur Internet et que ce serait payant. Il n'y a eu aucune discussion, payant et pas de pub. Alors c'est pour l'instant 1 euro.
Un euro
par mois pendant la version pilote. Exactement, une offre d'appel. Puis ensuite 9 et 5 euros ou 90 euros par an.
Vous démarrez avec quel financement et comment ?
On démarre avec des financements assez mixtes. On a d'abord mené une opération de crowdfunding. On avait un objectif de 50 000 euros. On a obtenu 80 000 euros qui nous ont servi et qui nous servent encore à payer la fabrication du site. On a nos indemnités de Libération. Certains disent un peu l'argent de Patrick Drahi, mais bon. On a des investisseurs privés. Et on mène parallèlement une autre opération qui s'appelle cette fois du crowd equity. Il s'agit cette fois que les gens puissent devenir actionnaires des jours, ce qui est la première fois qu'un média se financera comme ça en France.
Alors vous avez je suis allé voir la page d'accueil, bien sûr, vous avez une rubrique en une du site hein, sur la page d'accueil, c'est nos obsessions. Alors là, c'est un terme qui revient souvent, c'est la façon ça veut dire que vous allez traiter une information jusqu'au bout, obsédé par une information.
Exactement, en fait, on n'a pas de rubrique. On n'a pas de rubrique parce qu'on trouve que ça serait du décalque du papier. Ça, on n'a pas trouvé ça intéressant. C'est pas Internet. C'est pas comme on aime à dire un pure player de deuxième génération. On a des obsessions et donc les obsessions, c'est des sujets qu'on prend dans l'actu parce qu'on est tous autant qu'on est, on veut être accroché à l'actualité. On veut pas être dans le slow media, par exemple. Des sujets dont on estime qu'ils sont dans l'actu ou alors qui naissent de l'actu et qu'on va explorer à fond. Et le plus longtemps possible, ou alors des fois ça peut être des sujets beaucoup plus courts, mais il s'agit à chaque fois de redonner de la mémoire à l'information, de structurer comme ça ce besoin de cette actualité. Ouais.
Vous êtes combien à la rédaction ?
Et puis juste inclus, on doit être une douzaine.
Alors, vous voulez redonner une mémoire à l'information, c'est ça, hein, mais vous faites également le constat qu'il y a un trop-plein d'informations, que cela va trop vite, et les jours proposent quand même l'inverse, c'est ça ?
C'est pas tant que ça va trop vite, c'est que on a l'impression d'être submergé d'informations, et une information chasse l'autre, et c'est des dépêches AFP gratuites, copier-coller, ou quasiment de site en site. Jean-Marie parlait de robots tout à l'heure, moi ouais. Je trouverais très bien qu'il y ait des robots journalistes qui s'occupent de faire les résultats du sport et de copier-coller des dépêches AFP plutôt que ce soit souvent des jeunes journalistes, souvent précaires, et qui ont certainement plus de talent que ça.
Julia Tissier, cofondatrice de Chic Magazine, vous avez créé votre journal en ligne en 2013. L'aventure, c'était une aventure, j'imagine, il y a 2 ans et demi à peu près. L'aventure continue pour vous aussi ?
L'aventure continue, oui, exactement. Ça va faire bientôt 3 ans.
Ouais. En octobre.
On a lancé, voilà. Ouais. Éditorialement, on a réussi notre pari. C'est-à-dire que nous, on voulait proposer un féminin différent de ce qui existait pour les femmes entre 25 et 35 ans. Donc on trouvait que les féminins classiques étaient assez loin des préoccupations de la jeune génération. C'est-à-dire que les femmes peuvent être très bien intéressées par la beauté et la mode. On n'a pas de souci avec ça. Mais elles peuvent être intéressées par autre chose, par la culture et la société notamment. Nous, c'était nos points forts. Donc on a axé le magazine là-dessus. Et ça a plutôt bien marché. Après, nous, on est une plus petite équipe que Les Jours. On est 3 cofondatrices, donc il y a Myriam Levin et Faustine Kopiewski. Et on est clairement, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans une économie précaire. On a fait comme Raphaël, c'est-à-dire que nous, c'est pas les indemnités de Drahi. Enfin, nous, c'est Lagardère, mais ça revient un peu au même. Donc c'est Arnaud qui a payé le début de Chic. Après, on est dans un pays où on peut entreprendre avec Pôle emploi. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir un peu de temps devant nous. Là, tout ça maintenant, c'est terminé. Donc on rentre dans le vif du sujet, on va dire. On cherche, nous, des investisseurs. On est là-dessus depuis, je dirais, 8 mois. Voilà, donc ça avance doucement.
Et c'est facile. Vous êtes prise au sérieux au départ. On vous regarde comment ?
Il y a très peu de femmes qui montent des médias, finalement, quand on regarde un peu le paysage médiatique français. Jeune aussi, voilà, c'est donc...
Parce que vous êtes journaliste, jeune, femme et chef d'entreprise.
Voilà, ce qui n'est pas très courant en France. Donc voilà, on se heurte à pas mal de... On nous prend souvent pour des blogueuses mode, donc voilà, il faut lutter contre ça. C'est compliqué, hein, quand on passe une heure à expliquer qu'on est journaliste société et qu'on revoit cette personne et qu'elle nous dit « Ah oui, ça c'est la blogueuse mode », on ne comprend pas trop. Mais bon, on s'y fait et puis on lutte contre ça tous les jours. En plus, Chic est un magazine vraiment engagé, féministe, fier de l'être, et voilà. Donc on se heurte, les investisseurs sont beaucoup des hommes en France, plutôt pas jeunes, pour ne pas dire vieux. Donc du coup, quand on arrive, voilà, il y a clairement un décalage. Voilà, ce serait certainement plus facile si on était des mecs. Voilà, c'est pas le cas, donc on fait avec.
C'est difficile à cerner pour les investisseurs que vous démarchez.
Je ne citerai personne, mais on a contacté énormément de monde, et donc il y en a beaucoup qui nous ont... Voilà, il y en a un notamment qui nous a dit qu'on était très éloigné de son univers. Voilà, alors que c'est quelqu'un, c'est un homme de presse, mais il considère ça certainement pas Chic comme de la presse. Voilà. Donc on s'est beaucoup battu pour ça, pour avoir une légitimité. Et on a réussi, je crois, parce qu'on a créé pas mal de partenariats avec des médias dits plus classiques, comme Les Inrocks, Le HuffPost, Rue 89, voilà, des médias qui sont reconnus. Du coup, nous, ça va, on commence à être aussi reconnus, cités par la presse, mais ça n'a pas été facile au début. Ouais.
Raphaël Garrigos, Juliette Issier disait que c'est peut-être plus facile pour un homme, vous dites non, mais avec votre passé à Libé, c'est quand même pas plus facile de passer les écueils.
Disons qu'avec avec cette équipe d'une dizaine de personnes, on avait tous une petite notoriété, ça a certainement été plus facile que d'autres. Après, on a couru et on continue de courir les banques d'affaires, les investisseurs. Ça devient plus facile maintenant qu'on a quelque chose à leur montrer. On s'est aperçu quelque chose très vite, c'est qu'on ne nous jetait pas dehors, c'était déjà ça. C'est-à-dire que Mediapart est passé avant nous à essuyer les plâtres de la formation payante. Non seulement Mediapart, mais aussi finalement l'Internet payant. Parce que nous, on a voulu aussi s'inspirer, de profiter du moins de cette vague de Netflix, de Spotify, de Deezer. Mais c'est vrai qu'effectivement, on ne nous a pas jetés dehors, on nous a écoutés poliment et avec intérêt. Après, il y a toujours cette image de la presse qui ne sert qu'à être dépensée. Alors c'est pour ça qu'on essaie de raconter notre message d'un média rentable et qui le sera.
Jean-Marie Charron, oui, juste, et Christophe Delorenzi.
Il y a une étude américaine qui est sortie cette semaine qui dit que dans les quotidiens américains aujourd'hui de plus de 50 000 exemplaires, on est pratiquement à 9 titres sur 10 qui sont sur du payant maintenant, quand on est sur le numérique. Ce qui est quand même un basculement et qui, je pense, va faire évoluer aussi les représentations en France.
Des titres locaux.
Oui, oui.
Christophe Delorenzi, secrétaire général de Reporters sans frontières, vous êtes plus habitué peut-être à accompagner des journalistes dans des zones à risque, mais c'est un risque qui est pris là. Il faut du courage et de la volonté pour lancer son journal.
Évidemment qu'un journaliste totalement désargenté et n'ayant pas les capacités d'enquêter, de travailler, n'est pas un journaliste libre, et que le modèle économique, c'est un élément essentiel de la liberté de la presse, de l'indépendance de la presse, du pluralisme de la presse. Et on est dans une période, dans l'ensemble du monde, alors il y a des pays où il y a des difficultés incomparablement inférieures à celles que connaît la France en Asie, en Inde. Il y a des pays où la presse est encore un secteur économique florissant et où, y compris le papier, se vend de plus en plus. Il est faux de croire qu'à l'échelle de la planète entière, la presse papier est en train de s'effondrer. Peut-être ça viendra plus tard, et puis sans doute... D'ailleurs, que la question n'est pas tant celle du papier ou du web que celle du type de contenu, du texte, de la vidéo, et que, de ce point de vue-là, il y a une forme de neutralité des supports. Mais il n'y a pas de neutralité du point de vue des recettes, puisqu'il était plus facile de vendre du papier que de vendre de l'audience à travers la publicité. Et l'effondrement du modèle publicitaire, chez nous, modèle publicitaire qui peut être contestable. On peut légitimement considérer que la presse peut être parfois en partie sous emprise de ses annonceurs. Mais c'est un modèle qui est très préférable au modèle du 19e siècle où la presse était simplement utilisée par ses propriétaires à des fins d'intérêt bien compris. Et on peut se demander si on n'est pas en train, dans certains pays, en train de revenir à un modèle du 19e siècle.
Vous pensez à quel pays ?
On peut évidemment se demander si c'est pas le cas en France. On entendait dans votre générique la référence à ces hommes d'affaires qui ont des intérêts ailleurs et des intérêts qui, d'un point de vue de chiffre d'affaires, sont largement supérieurs à celui de la presse et qui donc viennent très clairement chercher de l'influence. Mais la captation des médias par les oligarques, c'est un phénomène mondial. Les oligarques, ça fait référence à la Russie, mais c'est le cas dans des démocraties comme dans des dictatures, et de manière évidemment différente. C'est le cas en Chine, à Hong Kong, où Jack Ma a racheté le South China Morning Post. C'est le cas en Inde, c'est le cas en Turquie, c'est le cas dans très nombreux pays. On est dans un moment où de riches sommes d'affaires, généralement des hommes, rachètent des médias. C'est le cas au Brésil aussi. Le pays que Reporters sans frontières nous qualifions de pays aux 30 Berlusconi, tellement sur place, il y a des hommes d'affaires, hommes politiques qui possèdent leurs médias dans leurs états.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Alors jeudi dernier dans l'Humanité, Patrick Le Yarrick, le directeur du journal, lançait une alerte en nous disant que l'humain est en danger. Patrick Le Yarrick faisait un appel aux dons en expliquant que sans cela, eh bien l'humanité ne passera pas les prochains mois. Autre mauvaise nouvelle, jeudi dernier également, le mensuel Terra Echo a dit adieu à ses lecteurs. En liquidation judiciaire, le journal et le site cessent de paraître. Nous sommes en ligne avec Walter Bouvet, cofondateur du journal. Bonjour Walter Bouvet.
Bonjour.
Terra Echo pouvait compter sur 20 000 abonnés, autant de lecteurs en kiosque, et pourtant, aucun repreneur n'a fait d'offre.
Aucun repreneur n'a fait d'offre. On a travaillé pendant quasiment 6 mois, plus particulièrement pendant les 6 dernières semaines, de façon assez constructive, je dois dire, avec tant des groupes de presse que des éditeurs indépendants ou des investisseurs individuels. À trouver des solutions. Alors parfois avec des divergences de vues qui ont conduit à arrêter les discussions. Parfois avec plus de convergence de vues, mais quand même des problèmes en termes d'appréciation du projet et de son devenir. Et voilà. Et,
vous écriviez, là, vous écriviez.
On en tire des conclusions.
Vous écriviez jeudi, le jour où Terra Echo a cessé de paraître, que votre histoire est emblématique de l'époque.
C'est ce qu'on pense. On fait la distinction entre ce qui relève de l'aventure propre journalistique et entrepreneuriale du projet. On a fait nos erreurs, on a eu nos limites. Et bien sûr, on balaye devant notre porte et on part avant tout avec des doutes. Ne serait-ce que parce que le fait qu'on soit obligé de s'arrêter, c'est en soi quelque chose qui s'impose à nous et qui nous oblige à nous poser des questions. Maintenant, sur nos sujets, sur notre approche de l'actualité, qui consiste à dire, notre prisme journalistique consiste à dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont structurants, comme l'épuisement des ressources naturelles, comme les dérèglements climatiques, comme les inégalités. Voilà, ça fait partie structurante de notre civilisation. Et ces éléments-là, ils nous empêchent de poursuivre sur la lancée sur laquelle nous sommes depuis parfois des dizaines d'années. Ils obligent à repenser nos modèles de société. Là, sur cette proposition éditoriale-là, on n'a pas réussi à passer suffisamment aux actes, c'est-à-dire à convaincre en espèces sonnantes et trébuchantes, alors que quand on pose la question, tout le monde nous dit « les dérèglements climatiques, c'est un sujet important, l'alimentation, c'est un sujet important, que les agriculteurs puissent vivre de leur production, c'est un sujet important, les inégalités, c'est un sujet grave, l'épuisement des ressources, ça nous préoccupe. » Et voilà, il y a une espèce de sympathie et d'évidence pour ces sujets, qui est inversement proportionnel, c'est ce qu'on dit dans notre mot d'adieu ou de revoir, inversement proportionnel à l'âpreté économique de notre projet. Et peut-être que dans la société, on voit bien, il y a cette tension entre l'évidence de certains de ces sujets et l'incapacité de la société, des élites politiques et économiques, à enclencher la seconde sur ces mêmes sujets. Nous, on fait notre autocritique. Un journal, il vit ou il meurt de ses lecteurs, de l'insuffisance de ses lecteurs. Pas de chacun, évidemment, parce que on va pas blâmer les lecteurs qui sont là. Le problème, c'est pas ceux qui sont là. Le problème, c'est ceux qui sont pas là. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on les a pas touchés, ceux-là? Est-ce qu'on les a pas touchés parce qu'il y en a pas? On les a pas touchés parce qu'on s'y prend mal? Est-ce qu'on les a pas touchés parce qu'on est trop en avance sur certains sujets et qu'ils n'ont pas encore suffisamment infusé dans la société pour qu'une vague puisse nous porter? J'ai pas la réponse à cette question. Mais ce qui est certain, c'est que tout se joue autour de cette rencontre avec un lecteur. Je pense que quand une proposition éditoriale est solide et suffisamment typée, peut-être qu'elle ne peut pas devenir économiquement mainstream et faire vivre des dizaines et des dizaines de journalistes dans un journal, mais il y a probablement quelque chose qui permet à un titre indépendant de vivre. Et je pense que la crise, elle a aussi bon dos, que la crise de la presse a aussi bon dos, et qu'il y a des projets qui obtiennent des résultats. C'est la preuve qu'il ne faut pas se désespérer, qu'il faut essayer encore. Et certains trouveront la clé, certains l'ont trouvé, comme on citait Mediapart, mais il y en a d'autres. Mmh. D'autres ne l'ont pas trouvé ou pas assez. Bon, voilà.
Merci beaucoup, Walter Bouvet, cofondateur de Terre et Écho, qui a donc cessé de paraître en liquidation judiciaire, qui a cessé de paraître jeudi dernier. Raphaël Garrigos, Julia Tissier, Terre et Écho pouvait compter sur 20 000 abonnés.
Mais nous, on en cherche 25 000.
Vous en cherchez 25 000.
Ouais. On cherche 25 000 abonnés d'ici 3 ans. On veut vivre de nos lecteurs. C'est une conviction. Comme l'indépendance, c'est d'ailleurs aussi une conviction. Voilà, on y va et on fait tout pour.
Julia Tissier.
Alors nous, on fonctionne pas sur le même modèle. On en a pas encore parlé, mais nous, on s'est posé la question du modèle payant au tout début. Comme on fait partie d'une génération, on s'est regardé nous. On s'est dit nous, on paye rien. On lit énormément de choses, on ne paye rien. Donc on va pas demander à nos lectrices et nos lecteurs, parce qu'on a pas mal de lecteurs mecs quand même. De payer. Donc on n'est pas parti sur ce modèle-là. On a basé notre modèle économique sur une agence de contenu qui existe en parallèle du magazine, qui s'appelle le Chic Office et qui produit ce qu'on appelle du brand content. Alors certains crieront au diable. Nous, on essaie de trouver un modèle économique. Il y en a plusieurs, on sait, pour la presse. Pour l'instant, il y en a aucun, j'ai envie de dire, qui a vraiment fait ses preuves. Donc nous, on tente celui-ci. Donc on crée du contenu à destination des marques sur leurs supports digitaux, voilà, personnels. Après, ça peut arriver qu'on héberge aussi chez nous des opérations spéciales. Donc voilà, nous, on a pris ce parti de faire ça. Donc pour l'instant, je pense que c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. C'est-à-dire qu'on réalise un chiffre d'affaires qui est, disons, pas honteux, mais qui est pas suffisant pour se rémunérer.
C'est ce que je vais vous demander après 3 ans d'existence. On a
doublé le chiffre d'affaires en 2 ans. Après, le gros problème, notre faiblesse, pour être totalement honnête, c'est qu'on s'est lancé à 3 journalistes. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent se lancer un média, pensez à prendre un commercial dans la boucle. C'est indispensable. Donc, malheureusement, on n'avait pas cette personne-là, on l'a pas trouvée, et c'est compliqué en fait quand il y a un noyau dur de cofondateur d'intégrer quelqu'un d'autre par la suite. Donc pour l'instant, on l'a pas, mais c'est vrai qu'on le cherche. Mais comme on n'a pas les fonds, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que les commerciaux viennent pas bosser pour 3 cacahuètes. Ouais. Donc du coup, on fait ce boulot nous-mêmes de commercial. Enfin, on s'est réparti les rôles en fait. Donc on a appris d'autres métiers que celui de journaliste. Mais pour l'instant, je pense que déjà, on met plus de temps que quelqu'un qui fait du business, depuis toujours. Voilà. Donc on met un peu plus de temps.
Raphaël Garrigos, vous avez ce profil de commercial dans l'équipe?
Eh bien oui, et je pense que ça, pour le coup, ça nous a aidé d'avoir dans les cofondateurs Augustin Appels, qui est notre directeur administratif et financier, un DAF comme on dit, et qui nous a aidé d'autant plus avec l'image qu'on pouvait se traîner venant de Libération, de paniers percés et de gens qui n'étaient là uniquement que pour ruiner des milliardaires. Donc pour nous, c'était en plus quelqu'un qui venait lui-même du numérique et qui nous a un peu dressé à ça et qui nous a appris, le disait Julia aussi, à de nouveaux métiers, à faire des business plans, des choses comme ça, et d'asseoir notre modèle éditorial sur un business model, comme on dit, parce qu'on a appris beaucoup de nouveaux mots dans toute cette expérience. Quelque chose de sérieux et de crédible.
Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce numéro exceptionnel de Reporter, le magazine de grands reportages de
Pologne, la tentation autoritaire. C'est un reportage de Yann Galik et Marco Stavas.
Le grand reportage du jour avec les musulmans.
Bosnie, la guerre de Tchétchénie, l'Irak, l'Afghanistan.
C'est une façon de vivre, le reportage. C'est pas un job.
Christophe Deloire, l'information de qualité a un coût, parfois très élevé. Là, on va parler des reporters qui se trouvent dans des zones à risque, dans des pays en guerre. On a beaucoup parlé de qualité de l'information, qui est un gage, mais la protection et la sécurité des reporters en zone de guerre, ça a un coût parfois très élevé.
On voit à quel point dans les zones sous contrôle de l'État islamique, de cette organisation, les journalistes ont été pourchassés. D'abord les journalistes locaux, lorsque une ville au nord de l'Irak comme Mossoul est conquise par l'État islamique, des dizaines de journalistes sont tués, les autres se sont soit enfuis, soit sont totalement soumis, et les studios de radio sont soumis à la propagande. Pourquoi il y a une violence de plus en plus débridée contre les journalistes? Peut-être parce que, en raison des pratiques d'embedment, c'est-à-dire d'incorporation des journalistes dans des armées, dans des conflits, les journalistes sont perçus comme appartenant à un camp ou à l'autre. Mais sans doute plus encore parce qu'aujourd'hui, on est dans un nouvel écosystème des médias qui permet à tous les pouvoirs, des gouvernements, des multinationales, des groupes religieux radicaux, n'importe qui, d'adresser sa communication, sa propagande, directement à ce que ces pouvoirs estiment être leur public. Et que les journalistes sont donc, pour cette raison, des témoins encore plus gênants et qu'il convient déconduire par tous les moyens. Et donc, l'information indépendante est de plus en plus prise à partie. Et le grand combat aujourd'hui, un grand combat avec des couches très, très différentes, des modalités très différentes, mais partout sur la planète, entre d'une part l'information sponsorisée par l'intérêt, l'information sous la dictée, l'information de rumeurs non vérifiées, qui peut parfois séduire une partie du public. On voit que des sites complotistes, sur des sites complotistes, des millions de vidéos sont vues. Et donc, le combat des journalistes aujourd'hui, des journalistes dignes de ce nom, comme dit la charte de déontologie des journalistes, c'est de faire exister cette information collectée avec méthode, de façon indépendante, avec des règles d'honnêteté, par rapport à une information qui parfois a des moyens déments, y compris en termes budgétaires, a des capacités techniques, des capacités d'écriture, qui permettent à ceux qui la produisent de faire ressembler ça à de l'information, et parfois de convaincre ceux qui ont envie d'y croire. Ça, c'est le grand combat pour l'information. Il y a le combat entre le journalisme de qualité et le journalisme qui l'est moins. Et puis, il y a le combat vis-à-vis de tout le reste, qui est aujourd'hui un champ d'information extrêmement puissant.
Jean-Marie Chéron, retour aux assises du journalisme. Vous avez constaté aussi qu'il y avait deux mondes journalistiques différents, les anciens, les modernes.
Oui, c'est un peu une observation qu'on fait au bout d'une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'en fait on voit deux populations qui cohabitent lors de ces assises. D'un côté, on a des journalistes plutôt assez, on va dire, les seniors qui ont plutôt envie de se retrouver là pour échanger sur leurs expériences et puis s'interroger effectivement sur ce que le nouveau paysage des médias pose comme problème nouveau par rapport à leurs pratiques, leurs valeurs, les questions de déontologie. Mais c'est vrai qu'on a aussi un deuxième public qui lui est complètement différent, qui est toujours même très nombreux, c'est souvent le plus nombreux dans ces assises, qui est très très jeune et qui vient là plutôt pour s'approprier les méthodes et les outils. Les méthodes, pas seulement les outils, apprendre, échanger beaucoup. C'est-à-dire qu'il croit beaucoup à l'échange d'expériences. Et je pense que Julia a participé à une table ronde qui était exactement sur ce registre-là. Et puis c'est vrai qu'il y a un fort engouement autour des questions technologiques. Il y a beaucoup de geeks, je ne sais pas comment on dit. Mais pour nous, l'enjeu, je crois...
Comment on dit, Julia?
Je crois que c'est des geeks.
Geeks, pardon.
C'est chic et geek.
Voilà. Et l'enjeu pour nous, c'est qu'effectivement, ces deux publics ne se séparent pas l'un de l'autre, disons, et ne se referment pas les uns sur les autres. Et puis, il y a un autre enjeu qui est effectivement peut-être de faire venir davantage la génération de ceux qui sont aux manettes aujourd'hui, ceux qui sont dans le cambouis aujourd'hui, et qui, c'est vrai, ont peut-être... Et je pense que ça correspond aussi à la période. Il y a une intensification du travail des journalistes, on attend d'eux beaucoup plus de production, et dégager 2-3 journées pour venir réfléchir sur leur métier, c'est pas forcément facile. Et puis l'autre enjeu des assises, c'était d'être ouvert sur la cité et que le public vienne participer à ces discussions-là. Et là, il faut reconnaître qu'on court un peu après un défi, même si hier, on a eu le plaisir, à la fin d'un débat sur les médias face à l'état d'urgence, que la conclusion vienne d'une personne du public. Mais c'est tellement rare que ça nous arrive qu'on va l'encadrer.
Merci Jean-Marie Chéron, merci à tous. On va passer à la seconde partie de l'émission, la disparition du vol, enfin, ou la non-disparition du vol MH370, Florence de Changer qui me regarde. Julia Tissier, Raphaël Garrigos, ça aurait pu faire une obsession, vous en êtes emparé?
Alors nous, non, on n'en a pas parlé. Enfin, si, on a un peu parlé des théories un peu folles qui ont couru après. Voilà.
Nous, mais ça aurait pu faire une obsession.
Oui, ça aurait pu faire une obsession, mais une obsession si on avait pu être sur place sous les bouts de carlingue. Ouais. Pas une obsession en allant récupérer trois dépêches AFP. Fallait qu'on soit sur place et qu'on ait une expertise à apporter.
Mais être sous le bout de carlingue, on va voir avec Florence Échangy que ça va pas être possible.
Quoique.
Il y a 2 ans, jour pour jour, le vol MH370 disparaissait. Le Boeing 777 de Malaysia Airlines se volatilisait avec 239 passagers à bord. Peu après son départ de Kuala Lumpur, il devait atterrir à Pékin. 2 ans après, la disparition reste un mystère. L'épave n'a pas été retrouvée malgré les recherches dans le sud de l'océan Indien. Et c'est le rapport d'enquête publié ce matin qui le dit. Aucune nouvelle indication sur les circonstances de la disparition de l'avion.
Florence Deschangy, correspondante de Radio France, du Monde, de RFI en Asie-Pacifique, et donc vous publiez aux éditions Les Arènes, le vol MH370 n'a pas disparu. C'est dans la continuité du débat, hein. C'est une information, une enquête de grande qualité, c'est une vraie contre-enquête détaillée sur la disparition, entre guillemets, puisque vous nous dites qu'il n'a pas disparu, ce vol, le Boeing 777, le 8 mars 2014, avec 239 personnes à bord et 4 membres d'une même famille française. Ce qui nous frappe en lisant votre livre, Florence, c'est cette succession de cafouillages dans les recherches, dans l'enquête, et puis ces déclarations officielles au plus haut sommet des États qui paraissent très précipitées.
Oui, absolument. C'est pour ça que, enfin, il y a presque un jeu de mots sur le titre, puisque évidemment, on sait tous qu'il a disparu, malheureusement, ce vol et surtout les 239 personnes qui étaient à bord. Mais je considère que les médias, l'opinion publique, le monde entier ne doit pas accepter cette version de la vérité qui nous est effectivement dictée. Donc c'est pour ça que je dis que...
Il ne faut pas parler de mystère, selon vous.
Il ne faut absolument pas parler de mystère. Il faut arrêter de dire que c'est incroyable. Il faut dire que ce n'est pas crédible. Il est arrivé de toute évidence quelque chose à cet énorme avion et à ces 239 passagers. Et il faut aborder la question comme ça, en disant que s'est-il passé tel jour, à telle heure, à tel endroit.
Alors la version officielle nous dit le transpondeur a été déconnecté à un peu moins d'une heure après le décollage et l'avion a fait demi-tour.
Oui.
Ça, c'est la version officielle.
Ça, en gros, c'est la version officielle qui a été proposée, ou de nouveau, je préfère parler de dictée ou de conjecture par le Premier ministre malaisien, Najib Razak, le 15 mars, qui met une semaine à s'adresser quand même à la presse, et qui là livre son explication de ce qui s'est passé. Donc, il dit acte malveillant, débranchement du transpondeur et surtout de la CARS. Et là, tous les fantasmes sont permis parce qu'on découvre que personne n'a jamais fait ça et qu'il faut être très, très calé. Donc, on imagine soit un pirate de l'air, soit un commandant de bord qui est devenu fou. Enfin, tous les fantasmes démarrent avec ça, avec la théorie de l'acte délibéré. Et ensuite, le vol, soi-disant, survole la Malaisie et la Thaïlande. Et ensuite, soi-disant, il monte dans le détroit de Malacca. Et ensuite, grâce à la société britannique Inmarsat, dont en gros on n'a jamais entendu parler, mais qui est quand même très 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 intéressante quand on se penche dessus, on apprend que ce vol a échoué au-delà du doute raisonnable, comme dit le Premier ministre malaisien, au beau milieu de l'océan Indien. Bon, tout d'abord, ça n'a ni queue ni tête cette histoire, parce que était-ce un suicide, auquel cas il aurait pu se crasher tout de suite. Est-ce qu'il avait l'intention de faire disparaître son avion? Dans ce cas-là, il avait intérêt à aller tout droit et aller au milieu du Pacifique, ça aurait été encore plus difficile que de le retrouver. Enfin, on ne comprend aucune intention dans tout ça. Donc voilà, oui, je dénonce l'absurdité de cette histoire.
Alors, sur le fond, comment vous travaillez concrètement? Parce que vous voyez, c'est un dossier sensible.
Hyper sensible, et les portes se ferment au fur et à mesure qu'on y frappe.
Les témoins que vous rencontrez, vous prenez des précautions pour protéger vos sources?
Oui, en fait, il y a plusieurs fois, on m'a demandé est-ce que tu es inquiète pour toi? Et en fait, je dis non, moi je ne suis pas inquiète pour moi, parce que moi je suis journaliste, officiellement, j'enquête sur cette histoire, donc... S'il m'arrivait quelque chose et qu'un parpaing me tombait dessus du cinquième étage d'un immeuble, je pense que ce serait relativement signé. En revanche, je fais très attention aux gens que je rencontre. Et c'est vrai que, par exemple, dans un cas, au début, la vidéo de surveillance des passagers qui m'ont d'abord, j'ai su qu'elle existait et que quelqu'un la détenait de manière clandestine. Et j'ai beaucoup voulu la voir parce qu'au début, j'avais l'idée que peut-être, si une des théories qui était à la mode, disons, était vraie, il n'y aurait peut-être pas à bord un passager très important. Donc pour moi, c'était essentiel de voir cette vidéo. La personne était dans un pays autre que où j'habite. On m'a dit que la seule manière de... Enfin, pour être sûr, J'ai rencontré en fait l'avocat d'Edward Snowden à l'époque où justement il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait que c'était les Américains qui avaient descendu cet avion.
Oui.
Alors lui, du coup, il m'a donné un certain nombre de conseils et il m'a dit de toute façon, pour tes sources, quand tu les rencontres, tu n'emportes jamais ton téléphone avec toi. C'est la précaution de base. Avoir son téléphone dans sa poche, là, on est tous ensemble, on a tous nos téléphones, donc c'est déjà aussi simple que ça, même si nos conversations ne sont pas enregistrées, le fait qu'on se retrouve, donc quand j'arrive,
j'ai mon téléphone. On sait qu'on est au même endroit
voilà.
Et qu'on s'est parlé.
Et donc on se parle. Donc première chose, par respect pour la source que vous rencontrez, vous y allez sans votre téléphone. Lui, il a le droit d'être où il veut. Si vous n'avez pas votre téléphone, vous n'y êtes pas. C'est aussi simple que ça aujourd'hui, la surveillance. Enfin, dans un premier niveau de surveillance.
Pas de téléphone, email crypté.
Alors, dans certains cas, oui. Et Dieu merci, il y a des techniques qui s'améliorent. Donc, aujourd'hui, c'est pas si compliqué que ça d'avoir un email crypté. Il y a un certain nombre de personnes avec qui on s'est habitué à utiliser un email crypté. Et de même qu'il y a des téléphones, enfin, des conversations téléphoniques qu'on peut faire cryptées ou bien Telegram aussi. C'est du WhatsApp crypté qui est beaucoup plus sûr, semble-t-il, que le WhatsApp.
Dans votre livre de contre-enquête, vous consacré un paragraphe à l'Australie qui prend les recherches en main, 3 semaines à peu près après la disparition de l'appareil. Et là, ces recherches sont faites en dépit du bon sens.
Oui,
ouais. C'est-à-dire... Ils partent un peu à la pêche, sans savoir vraiment où il est, en jetant des micros un peu au hasard.
Mais oui, mais toute cette histoire est en dépit du bon sens. Et comme on disait au début sur la version officielle, donc l'acte délibéré, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas, simplement en prenant le temps de réexaminer les choses, en ouvrant le rapport et dire, bon mais au fait, quand et comment sait-on qu'on a éteint la CARS ? Et j'ai demandé à plein de gens et on m'a dit, bah on ne le sait pas. On sait simplement que ça c'est que le dernier bulletin a été envoyé à 1h07 et que celui d'1h37 n'a pas été reçu. Mais on a inventé l'histoire entre les deux. Et pour les Australiens, j'ai demandé à plusieurs personnes, dont Paul-Henri Narjolet, qui est un plongeur des mineurs, qui est un des plus grands experts de chasseurs d'épaves, disons, qui a fait le Titanic, la F-447, Oustica en Italie. Mm-hmm. Et lui m'a dit, mais dès que j'ai entendu les premiers commentaires sur ces recherches australiennes, j'ai su que c'était du grand n'importe quoi. Les gens qui sont à bord de ces bateaux, c'est des petites équipes américaines, essentiellement, super compétents. Jamais ils ne font les erreurs qu'on leur a attribuées, de nous faire croire qu'un ping a été entendu alors que la machine était simplement à 300 mètres au fond de l'eau. Enfin, il n'y a que des absurdités dans cette histoire.
Le ping, c'est le signal de la boîte noire.
De la boîte noire, ouais. Voilà. Bon, en plus, il n'y avait qu'une boîte noire qui fonctionnait, tout le monde le savait, mais on a quand même fait croire à tout le monde qu'on cherchait deux boîtes noires. Parce que déjà, deux boîtes noires dans l'océan Indien, c'est difficile à trouver. Si on avait su qu'il n'y en avait qu'une, ça n'aurait pas... Non, mais c'est effrayant de voir à quel point... on a raconté des tas d'histoires qui n'avaient quasiment aucun sens.
Florence Deschangy, face à tout ce que vous nous racontez, on est quoi ? On est en face d'une énorme entreprise de désinformation et de manipulation. C'est ce que vous nous dites. Pourquoi ? Parce que la vérité, on ne peut pas la dire, elle est inavouable.
On en arrive à ce genre de déduction. Moi, j'essaye de rester la plus prudente possible. Et j'essaye de faire le contraire de ce qu'a été la théorie officielle. C'est-à-dire que la théorie officielle, c'est un récit sans aucune preuve et sans aucun indice. Et moi, j'essaye au contraire de donner les indices et les preuves qu'on a, dont on dispose, et faire appel justement à l'intelligence du lecteur pour que lui se dise « Ah bah alors clairement, c'est quand même plutôt ça ».
Merci Florence Deschangy. On termine avec le clin d'œil de l'émission, fiction entre réalité et série télé au moment des manifestations dans la rue contre la réforme du Code du travail.
Invité du grand rendez-vous, le baron noir, le député qui murmure à l'oreille des lycéens, Philippe Rigvart. Bonjour.
Bonjour.
Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'ores et déjà de manipuler la jeunesse française ?
Je dis à la jeunesse, soyez la gauche. Irriguez le Parti Socialiste de vos espoirs. Irriguez-le de votre enthousiasme, de votre esprit de combat. Et changez-le enfin de l'intérieur. Sans la jeunesse, la gauche est un astre mort.
Le Premier ministre va nous rejoindre le plus tôt possible, on va commencer.
S'agissant de Martine Aubry, j'étais hier au bureau national du Parti Socialiste. Nous avons eu 3 heures de débat, un débat d'idées intéressant, constructif.
Je vous en prie, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
La séance se poursuit. La parole est à monsieur Philippe Rigvard, député de la 13e circonscription du Nord.
Voilà pourquoi je suis venu plaider en bleu, parce que c'est elle, la couleur de la jeunesse populaire.
La parole est à monsieur le Premier ministre.
Ah.
Tant qu'il y a évidemment cette confiance, l'action du gouvernement et l'action des réformes se poursuit.
Eh bien, nous verrons, monsieur le Premier ministre, samedi, ce que la jeunesse de France a décidé de vous répondre.
Ça va être énorme.
Pardon ?
La manif ! Maintenant, les jeunes ne se battent plus pour quelque chose, ils se battent contre quelqu'un.
On continuera à se mobiliser tant que cette loi sera toujours un projet.
Manifestation à 12 ans !
Le clin d'œil de Yacine Bouzard, merci à tous. L'émission se termine. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Julia Tissier de Chic Magazine, auteure avec Myriam Levin de La Génération Y par elle-même et qui vient de sortir en poche, et également de Y comme Romy chez Robert Laffont. Raphaël Garrigos, cofondateur du site d'info Les Jours. Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Je rappelle votre dernier livre, Christophe, Circus Politicus chez Albin Michel. On le trouve encore en duplex au téléphone. Walter Bouvet, journaliste cofondateur de la revue Terra Echo qui vient de cesser de paraître. Et merci également à Florence de Changy, correspondante en Asie-Pacifique pour Radio France, Le Monde et RFI, et pour son livre publié aux éditions Les Arènes. Le vol MH370 n'a pas disparu. Notre regard extérieur aujourd'hui qui nous a accompagné, Jean-Marie Charon, sociologue, spécialiste des médias, également très impliqué dans l'organisation des Assises du journalisme, 9e édition. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui, Clément Daté. Dans un instant, le journal d'Anne Fauquemberg, suivi de répliques sur François Mitterrand. Alain Finkielkraut reçoit Éric Roussel et Michel Vinoc. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique. Bonne journée sur Culture.
Il y a une étude américaine qui est sortie cette semaine qui dit que dans les quotidiens américains aujourd'hui de plus de 50 000 exemplaires, on est pratiquement à 9 titres sur 10 qui sont sur du payant maintenant, quand on est sur le numérique. Ce qui est quand même un basculement et qui, je pense, va faire évoluer aussi les représentations
des titres
en France.
Locaux. On veut être accroché à l'actualité, on ne veut pas être dans le slow media, par exemple. Des sujets dont on estime qu'ils sont dans l'actu ou alors qui naissent de l'actu et qu'on va explorer à fond. Ou alors, des fois, ça peut être des sujets beaucoup plus courts, mais il s'agit à chaque fois de redonner de la mémoire à l'information, de structurer comme ça ce besoin de cette actualité. Ouais.
On a fait comme Raphaël, c'est-à-dire que nous, c'est pas les indemnités de Drahi, enfin, nous, c'est Lagardère, mais ça revient un peu au même. Donc, c'est Arnaud qui a payé le début de Chic.